Comment la vie est-elle apparue sur Terre?
On peut envoyer actuellement des signaux à 100 millions de kilomètres.
Les scientifiques repoussent encore les limites du possible.
Il n'y a rien qui soit pérenne dans le temps. Tout est d'ordre chaotique, mais ça peut être des chaos sur des échelles de temps de l'année, du million d'années, du milliard d'années. Ce qui compte, c'est le temps qu'il faut pour que les choses dérivent.
Tout ce qu'ils veulent, c'est faire des chiffres. Ils n'ont rien à foutre qu'on détruise le fond des océans.
So, I had an idea.
Le siècle des ampoules.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en cette nouvelle édition du siècle des ampoules pour laquelle nous avons le plaisir d'être en compagnie de Pierre Coeur. Pierre Coeur, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation.
Bonjour.
Alors vous êtes professeur à l'Université Libre de Bruxelles au sein du laboratoire Squares. Vous avez été récemment présélectionné pour le prestigieux prix international Frontiers Planet pour les recherches que vous avez menées avec votre équipe sur la concentration en ammoniac dans l'atmosphère. Alors on reviendra bien entendu sur votre étude, mais pour commencer peut-être, est-ce qu'on pourrait définir le milieu dans lequel se trouvent ces polluants atmosphériques? Qu'est-ce qui caractérise l'atmosphère terrestre et comment est-ce qu'elle se compose?
Oui, ça c'est une bonne question. Alors l'atmosphère terrestre, d'une façon générale, elle est constituée de composés qui sont assez peu réactifs. On parle de l'azote, le diazote et le dioxygène. À eux deux, c'est la grande partie de notre atmosphère. Et évidemment, ce ne sont pas ces composés-là qui vont avoir des impacts environnementaux. Donc nous, on s'intéresse plutôt à des gaz qui sont présents en toute petite concentration dans le système atmosphérique, mais qui ont des impacts environnementaux souvent assez importants et assez marqués.
Et à l'heure actuelle, est-ce qu'on a une bonne idée de comment se forme une atmosphère sur une planète telle que la Terre ?
Oui, maintenant on a une vision assez claire de comment les atmosphères se forment. Alors évidemment, toutes les planètes ne peuvent pas retenir une atmosphère comme celle de la Terre. Et dans l'évolution de la planète terrestre, il y a eu des événements cruciaux. On a atteint la bonne température, etc. pour condenser les océans. Et puis après, le cycle de l'eau se met en place, la vie peut apparaître et avec ça les premières traces d'oxygène. Pour aboutir finalement à une atmosphère qu'on appelle tertiaire, qui est celle qu'on connaît depuis longtemps, qui est assez stable. Et nous, on ne s'intéresse pas tellement à cette stabilité-là, mais plutôt justement aux perturbations anthropiques qui, elles, sont plus récentes. Elles sont minimes en termes de la composition, mais de nouveau, les impacts, eux, peuvent être assez impressionnants.
Et nous reviendrons bien sûr sur ces sources de perturbations anthropiques. L'atmosphère terrestre, elle a fort évolué entre les jeunes années de la Terre et aujourd'hui. Et une raison de cette évolution de sa composition est ce lien notamment intrinsèque qui existe entre l'atmosphère et le climat.
Oui, bien sûr. Donc, heureusement qu'on a quelque part sur Terre un effet de serre naturel qui a permis justement d'amener ces températures telles qu'on les connaît à peu près et qui ont permis la condensation des océans, etc. Après, ce que nous, on est en train d'observer maintenant avec les activités humaines, c'est un delta sur ces problématiques-là, l'effet de serre, qui font des impacts sur le réchauffement global et puis avec ça, toute une série d'autres problématiques qui s'en suivent.
Alors avant d'entrer dans le vif du sujet et d'évoquer avec vous votre étude, vous êtes donc membre du laboratoire Squares. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les missions et les recherches que vous menez au sein de ce laboratoire ?
Alors le laboratoire, il existe depuis longtemps. On l'a réintitulé. C'est un laboratoire qui, au départ, était axé sur la spectroscopie moléculaire. Et la spectroscopie, ça consiste à interroger les molécules quelque part au travers de l'interaction avec la lumière. Et puis nous, il y a une dizaine d'années, on a développé une activité de spectroscopie plus appliquée qui utilise l'interaction entre de la lumière naturelle, le soleil ou la Terre, qui émettent de la lumière. Cette lumière se propage dans l'atmosphère, elle va être modifiée par les composés atmosphériques. Nous, on récupère cette modification quelque part avec des instruments sur des satellites et ça nous permet d'aller voir comment l'atmosphère évolue, de quoi elle est constituée, comment elle évolue dans le temps et dans l'espace.
Et justement, une des études que vous avez menées avec votre équipe s'est portée sur un polluant atmosphérique bien particulier, c'est l'ammoniac. C'est d'ailleurs cette étude qui vous a valu d'être présélectionné pour le prix auquel on faisait référence en introduction. Alors déjà, on peut rappeler que selon une étude, la pollution atmosphérique fait environ 9 millions de morts par an à travers le monde. Ça, c'est les chiffres pour l'année 2019. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre étude et de ce que vous avez pu mettre en avant à travers celle-ci ?
Oui, bien sûr. Donc l'ammoniac, je crois qu'un premier point important, c'est peut-être de noter que avec les instruments avec lesquels on travaille pour le moment, il y a 20 ans, quand ces missions sont mises en place, on ne pensait pas qu'on pourrait mesurer l'ammoniac dans l'atmosphère, parce qu'il est présent en toute petite concentration dans les plus basses couches atmosphériques. Et donc nos premières observations de l'ammoniac, ça a d'abord été une surprise. Et puis la première cartographie globale qu'on a pu faire de l'ammoniac, ça a révélé beaucoup de choses sur la possibilité de ces instruments à aller faire un suivi vraiment précis de où se trouvent les sources de pollution, est-ce que ça évolue dans le temps, est-ce qu'on est sur des augmentations, des diminutions d'ammoniac et comment ça finalement influence la pollution plus globale.
Et qu'est-ce qui caractérise l'ammoniac? Qu'est-ce qui la distingue des autres polluants?
Alors, bon, il y a différentes classes de polluants atmosphériques. On peut distinguer les polluants en termes du temps qui reste dans l'atmosphère. Et ça, c'est évidemment important. Donc, les gaz à effet de serre, par exemple le dioxyde de carbone, le méthane, sont des composés qui restent très longtemps dans l'atmosphère. Ils vont être bien mélangés. Leur concentration va être relativement homogène à l'échelle du globe et vont avoir un impact du coup qui est global. Et c'est les changements globaux et l'augmentation de température qu'on connaît à peu près partout sur le globe. Des composés comme l'ammoniac sont des composés qui sont très réactifs. Ils restent dans l'atmosphère quelques heures, un jour. Et donc on va les mesurer, leurs concentrations vont être fortes, surtout là où il y a des activités qui les émettent dans l'atmosphère. Dans le cas de l'ammoniac, c'est beaucoup l'agriculture.
Alors, vous le dites, dans le cas de l'ammoniac, les émissions proviennent principalement du secteur agricole. Est-ce que vous arrivez à être très précis pour situer les sources de ces émissions?
Avec l'ammoniac, c'est ça qu'on arrive à faire. Comme il est à courte durée de vie, on le voit là où il est émis. Et donc, on a cartographié il y a quelques années, en moyennant 10 ans, on a pu aller identifier les sources exactes, quoi. Quelle industrie contribuait le plus à la pollution, quel gros complexe agricole. Et que c'est un développement dans toute l'utilisation des données satellitaires, c'est vraiment d'essayer d'arriver à la petite échelle spatiale pour voir où se situe la perturbation, quoi, et essayer de la quantifier au mieux.
Et quelles sont les conséquences concrètes d'une trop forte concentration d'ammoniac dans l'atmosphère?
Alors, le problème de la pollution azotée, il est large. C'est peut-être tout l'intérêt aussi. On parle de la cascade d'impact d'une pollution à l'azote. Le premier impact, qui est peut-être le plus visible, et c'est celui de la pollution atmosphérique. Donc l'ammoniac en tant que tel, c'est pas vraiment un polluant dans le sens où il n'a pas un impact direct sur notre santé dans les concentrations qu'on a dans l'atmosphère, mais c'est un composé qui va très rapidement former des particules fines dans l'atmosphère, et ces particules fines, elles ont un impact central sur la qualité de l'air et sur la santé, notre santé à nous et la santé des écosystèmes. Après, l'ammoniac, ou avec les particules qu'il a formées, quand il se redépose, il va aussi avoir un impact sur les écosystèmes terrestres et marins au travers de différents processus.
Et vous parlez de particules fines, est-ce que finalement on a une bonne idée de leur présence? On arrive à toutes les détecter?
Alors les particules, elles sont difficiles à caractériser sûrement en termes de leur composition. Par contre, on a maintenant des instruments de mesure qui permettent assez bien de quantifier leur nombre. Et c'est plus justement le nombre que la composition des particules qui va avoir un effet sur notre santé. Donc ça va affecter notre système respiratoire. Donc on arrive relativement bien à suivre les particules dans l'atmosphère pour le moment.
Et dans le cadre de votre étude, vous avez observé une hausse de 12% de ces présences de particules d'ammoniac dans l'atmosphère, alors même que celle-ci est censée être soumise à des réglementations. Comment est-ce que vous l'expliquez?
Alors, peut-être la première chose à souligner, c'est que c'est à peu près la première fois qu'on arrive à suivre sur autant d'années les concentrations d'ammoniac à l'échelle du globe. Et ça, on tire parti du fait qu'on a des instruments satellitaires qui nous permettent de faire un suivi sur le relativement long terme. On a maintenant 15 ans de données qui sont à notre disposition. Et donc 15 ans de données qui nous ont permis de suivre notamment les concentrations d'ammoniac. Et c'est vrai, ce qu'on a révélé, c'est une augmentation dans la plupart des régions, en Europe en particulier, aux États-Unis, alors qu'il y a des réglementations qui sont censées être en vigueur pour diminuer non pas les concentrations atmosphériques, mais ce qu'on émet dans l'atmosphère. Alors si on observe une augmentation des concentrations, évidemment on peut se dire qu'on continue à en émettre de trop, mais il y a des processus dans l'atmosphère aussi qui jouent, qui pourraient expliquer cette augmentation qu'on observe des concentrations d'ammoniac dans l'atmosphère.
Et justement, ces polluants, généralement, ils se concentrent à un endroit particulier dans l'atmosphère. On parle de couches limites planétaires.
Alors, les composés qui sont de nouveau très réactifs à courte durée de vie, c'est vrai qu'ils vont être, ils vont rester à très basse altitude. Donc, on parle des 100 premiers mètres de l'atmosphère au-dessus de la surface. Donc, des composés comme l'ammoniac, etc., ils vont être surtout dans cette couche-là de l'atmosphère, et c'est évidemment celle qui est importante pour nous.
Et est-ce qu'on sait pourquoi ils ont ce plafond, entre guillemets ?
Donc en termes de mélange atmosphérique, on a une petite barrière dynamique qui empêche la pollution de grimper rapidement dans les couches supérieures, et des composés qui restent longtemps dans le système, de nouveau, ils vont avoir le temps de grimper plus haut, de s'échapper de la couche limite et d'intégrer les couches supérieures de l'atmosphère, mais un composé comme l'ammoniac, en 2-3 heures, il n'aura pas le temps de s'échapper, il restera localisé dans cette couche-là, qui parfois est relativement stable et accroît les problèmes de pollution.
Et là, plus seulement sur l'ammoniac, mais ces différents polluants, est-ce qu'ils circulent autour du globe et à quelle vitesse ?
Alors de nouveau, un composé comme l'ammoniac, très courte durée de vie, va pas être transporté loin de la région où il est émis, mais il y a des composés, par exemple les particules fines peuvent être transportées sur de relativement longues distances, affecter la pollution au moins transfrontalière, parfois c'est intercontinental, dépendant des composés.
The longest train I ever saw went down there, Georgia line. Well, the engine went by at 6 o'clock, and the cab went by at 9. In the pines. The sun never shines, and we shiver when the north wind blows. I asked the captain for the time of day. He said he threw his watch away.
Alors nous sommes de retour avec Pierre Coeur, professeur à l'Université libre de Bruxelles et chercheur au laboratoire Squares. Alors en préparant cette émission, Pierre Coeur, j'ai lu quelque chose d'assez contre-intuitif, hein, qui disait qu'il y a 100 ans, alors là l'étude se basait sur le bassin parisien, mais j'imagine que cela s'applique aussi aux autres grandes villes, qu'il y a 100 ans l'air était encore plus pollué qu'il ne l'est aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez, et comment est-ce qu'on l'explique ?
Il y a des mesures qui sont quand même assez nettes au niveau européen sur les seuils de qualité de l'air. On avait, il y a plusieurs dizaines d'années, des problématiques bien spécifiques qui étaient liées à la présence d'oxyde de soufre, par exemple, qui ont très fort diminué en raison des réglementations internationales et nationales. Les oxydes d'azote sont en diminution aussi. Les particules fines, c'est plus compliqué, donc on observe parfois une diminution, mais elle est lente. Et donc, ça dépend un petit peu de l'espèce qu'on regarde. Mais d'une façon générale, on peut dire qu'on est quand même sur une amélioration de la qualité de l'air par rapport à il y a plusieurs décennies, effectivement. En tout cas, Europe, États-Unis, on est sur une amélioration globale de la qualité de l'air, hormis les particules fines, qui, elles, restent à un seuil préoccupant, on va dire. Il y a 20 ans, la Chine était dans une augmentation de la pollution assez significative et ils sont maintenant en train de retourner vers une situation qui est meilleure parce que pareil, ils ont pris des mesures pour contrer cette pollution. Ils ne voyaient plus le ciel bleu en Chine. Il y a quelques jours de ciel bleu par an parce que tout était tout le temps dans la pollution. Ce n'est plus le cas maintenant, donc il y a une amélioration de la qualité de l'air, y compris dans ces pays-là, quoi.
Alors dans cette première partie d'émission avec vous, Pierre Corr, on a beaucoup parlé de l'ammoniac sur lequel vous avez travaillé longuement. Quels sont peut-être les autres grands polluants atmosphériques que l'on retrouve aujourd'hui ?
Au niveau des polluants de l'air, donc ceux qui affectent notre santé, on parle le plus souvent des oxydes d'azote, donc le NO2, l'ozone. Le monoxyde de carbone fait partie des composés qui sont surveillés, même si les concentrations sont rarement au-dessus des seuils. Et puis, de nouveau, les particules fines qui, elles, sont au centre des problématiques sanitaires actuelles.
Alors, vous l'avez mentionné, vous travaillez avec des données satellitaires que vous récupérez d'ailleurs directement ici à l'Université Libre de Bruxelles. Vous avez un centre de calcul ici dans le bâtiment qui est assez unique en Europe, qui vous donne d'ailleurs des informations presque en temps réel, on va dire, sur ces informations de pollution atmosphérique. Finalement, quel est l'intérêt aussi d'étudier cette pollution atmosphérique depuis l'espace comparé à des observations depuis le sol ?
Alors, il faut se rendre compte que faire des observations depuis le sol, c'est souvent plus précis. Mais par contre, spatialement, on est très limité. On va mesurer à un endroit donné, à un moment donné. Les satellites offrent l'avantage de pouvoir fournir une couverture étendue, la plupart du temps globale, avec un temps de revisite qui est entre une fois par jour et, dans le futur proche, peut-être plusieurs fois par heure.
Et on imagine que ces données satellitaires sont également complétées par des données in situ, comme par exemple des ballons qui vont sonder sur place ces composés atmosphériques.
Alors les ballons viennent compléter souvent, les avions viennent compléter le panorama entre des mesures très locales, ce qu'on fait depuis les satellites, et c'est l'ensemble en fait qui nous permet d'avoir une bonne compréhension du système. Il faut aussi se rendre compte que toutes ces mesures qu'on fait au niveau du sol sont essentielles pour valider ce qu'on fait avec les instruments qui sont en orbite, pour lesquels on n'a pas toujours la maîtrise de l'instrument en tant que tel. Et donc c'est le panorama général de cette instrumentation qui nous permet de bien comprendre l'atmosphère, d'être sûr des tendances aussi qu'on va mettre en avant.
Et est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les projets futurs du laboratoire Square ici à l'ULB ?
Donc on travaille au laboratoire pour le moment avec un instrument, comme je vous disais, qui est en orbite depuis 15 ans maintenant. Cet instrument-là, il va continuer à opérer. Donc c'est un instrument qui nous permet aussi de faire le suivi météorologique au niveau européen. Et donc on est sur un programme opérationnel qui va encore continuer plusieurs années. Mais on est déjà dans la préparation du suivi de ces instruments-là et qui nous permettront d'avoir des mesures au moins jusqu'en 2040 et ce seront des mesures de meilleure qualité. À côté de ça, on va avoir d'ici 2 ans le lancement des premiers instruments qui nous permettront de faire un suivi de la composition atmosphérique depuis une orbite géostationnaire. L'avantage, c'est qu'on pourra le faire toutes les demi-heures, là où pour le moment on a une mesure tous les jours ou au mieux 2 fois par jour. D'ici 2-3 ans, on pourra suivre la composition de l'atmosphère toutes les demi-heures en Europe et ça, ce sera une avancée majeure. Et pour terminer, mais ici au laboratoire, on est en train de développer une mission satellitaire qui serait dédiée à la mesure des deux principaux composés azotés qu'on retrouve dans l'atmosphère, l'ammoniac et le dioxyde d'azote, qui eux ensemble représentent à peu près 90% des émissions des composés azotés réactifs et qui sont donc au centre de tout ce qu'on appelle la perturbation du cycle de l'azote.
Eh bien, merci beaucoup Pierre Coeur d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Avec plaisir.
Alors vous pourrez écouter ce podcast sur radio.be ou radio.fr. Encore merci.